Bonjour. Vous allez bien? Je peux afficher la... si ça fonctionne. Jean 13, aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas. Vous avez déjà sans doute entendu ces mots, il a comme un air de famille. Je ne sais pas si vous les avez déjà entendus, si tu peux passer la slide juste après. Tu ressembles à ton frère, tu ressembles à ton père, c'est la fille de sa mère. C'est bien un fils Bastien, c'est bien un fils de Vogel, c'est bien un fils Trèfcon. Vous savez que j'ai un frère dans l'église? Vous connaissez tous? Souvent, quand il y a des personnes qui arrivent du centre, ils me disent « Mais tu ne serais pas un fils de Vogel par hasard en voyant mon père ?» Ouais, un air de famille. Mais tu avais des cheveux. C'était pas les siens. Mais a-t-on déjà dit de vous, c'est un disciple de Christ? Ils sont des disciples de Jésus. Est-ce qu'on a déjà dit ça de vous? Parfois, on est fier d'être identifié à sa famille, et parfois moins, pour diverses raisons. Et ma question ce matin, c'est seriez-vous fier d'être reconnu comme étant un disciple de Jésus? Je pose la question. Je nous pose la question. Dans le texte de Jean 13 que nous allons prendre ce matin, il est question de l'amour de Jésus pour les siens, un amour ultime, un amour extrême même, un amour que Jésus nous commande de reproduire les uns envers les autres et qui est une marque visible pour le monde que nous sommes de lui, que nous sommes ses disciples. Et on va lire ensemble donc le texte et on va regarder ensemble à notre maître, à Jésus. On va regarder à ceux qu'il appelle ses disciples, et puis on va recevoir pour nos vies ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin au travers de cette lecture. Alors je vous rappelle le contexte, le ministère de Jésus n'a cessé de croître, et ses enseignements, ses miracles, tout ce qu'il fait ne laisse personne indifférent. Pour certains, c'est la personne à suivre, à écouter, qui est pleine de sagesse, de discernement, qui a le pouvoir de guérir les malades, qui a le pouvoir de chasser les démons, de ressusciter les morts, de pardonner les péchés, c'est le Messie attendu. Et pour d'autres, c'est un fauteur de troubles, un blasphémateur, la personne à combattre. Et il y a un groupe de personnes que Jésus avait choisi, qui le suivaient de façon permanente, c'était ses disciples, ils étaient 12. Jésus les aimait et il les enseignait. Alors ils ne comprenaient pas toujours tout ce qu'il enseignait, mais il l'aimait aussi en retour et il était leur maître. Et nous en sommes donc au dernier repas que Jésus prend avec ses disciples avant son arrestation. Donc on va lire ensemble. Normalement les paroles devraient s'afficher, vous devriez pouvoir suivre. Et on va lire le chapitre entier, il n'est pas très très long. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il va donc à Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus répondit « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le maître et le seigneur, et vous dites bien, car je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux. pourvu que vous le mettiez en pratique. Ce n'est pas de vous tous que je le dis. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez que moi, je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, se demandaient de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Et Simon-Pierre lui fait un signe et lui dit « Demande, demande qui est celui dont il parle. » Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répondit « C'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. » Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête ou donne quelque chose aux pauvres. » Judas prit le morceau et sortit aussitôt, il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur lui dit « Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus répondit « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. » Il y en a des choses dans ce texte. Il y en a des choses. J'aimerais commencer par parler de l'amour extrême de Jésus, l'amour extrême de Christ. Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Dans la culture orientale de l'époque, le lavement des pieds était fréquent à cause de la poussière et de la boue sur les routes. Les gens se déplaçaient en sandales, alors il n'y avait pas encore de chaussettes, il n'y avait pas de trottoir. Et on peut comprendre aisément l'intérêt de cette pratique. Alors, j'aurais pu prendre une bassine, j'ai hésité. Ça ne devait pas être désagréable. Moi, je fais souvent des randonnées. Et c'est vrai que j'ai toujours apprécié, après une longue marche, de retirer mes chaussures et de tremper mes pieds dans l'eau fraîche d'un cours d'eau. Et le lavement des pieds, il appartenait aussi aux lois de l'hospitalité. Si on regarde un petit peu dans un autre évangile, l'évangile de Luc, on voit que Jésus fait des reproches à Simon de ne pas lui avoir mis de bassine à disposition pour ses pieds. Et il était quelque chose que seul le maître de maison pouvait décider pour son invité. Donc le maître de maison mettait alors à disposition une bassine d'eau pour que l'invité puisse se laver lui-même les pieds, ou il demandait à l'esclave de sa maison, le plus bas de l'échelle, souvent l'esclave qui était étranger, de lui laver les pieds. Il faut comprendre que dans la société juive plus aisée de l'époque, cette tâche était considérée comme humiliante. Et c'est la raison pour laquelle elle était dévolue à l'esclave le plus bas de l'échelle. Et lors de cette soirée, Jésus et ses disciples arrivent au lieu du repas, mais personne n'est disposé à préparer une bassine pour le lavement des pieds, et encore moins à le faire pour les autres. Luc rapporte une des discussions entre les disciples ce soir-là, ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Alors vous imaginez, ils arrivent, pas question que je lave les pieds. Là. Jésus se lève de table, quitte ses vêtements, il prend un linge pour s'entourer la taille, il verse de l'eau dans une bassine et il se met aux pieds de ses disciples. Et il leur lave les pieds. Puis il essuie avec le linge à sa ceinture. Jésus, il savait que son heure était venue, on l'a lu. Il savait qu'il allait au-devant de terribles souffrances et d'humiliations. Mais malgré la pression des événements qui arrivent, il n'est pas paralysé, il est là, il est présent avec ses disciples. Et il veut leur démontrer encore une fois combien il les aime. Ici, l'amour de Jésus, il n'est pas seulement un sentiment. L'amour de Jésus, il est humble, il est désintéressé. Il est un acte puissant qui démontre le sentiment, et ce, malgré les circonstances. Jésus, le Fils de Dieu, prend la place de l'esclave, le plus bas de l'échelle sociale, pour laver les pieds de ses disciples. Il accomplit encore une fois cette parole où il dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » L'acte qu'il accomplit annonce symboliquement sa mort, par laquelle il va offrir la purification à tous ceux qui croiront en lui. Philippiens 2, versets 6 et 7 nous dit « Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Nous adorons un Dieu d'amour qui a manifesté son amour pour ses enfants de façon extrême, de façon ultime. Et cet amour pour nous n'était pas juste un sentiment. Dieu le Père l'a manifesté de façon concrète, réelle, en donnant son Fils Jésus en rançon pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos erreurs, pour nos crimes, pour nos faiblesses. Et c'est sur le chemin de ce sacrifice, de son sacrifice, sur le chemin de la croix, que Jésus s'est arrêté un instant et a lavé les pieds de ses disciples. L'amour de Jésus pour toi, j'ai envie de te dire ce matin, il est vrai, il est solide, il est réel. Ce qui me touche dans ce texte aussi, c'est qu'on voit que Jésus, il est maître de l'histoire. Tout au long du passage, nous voyons que les événements n'échappent pas au contrôle de Jésus. Aucunement. Avant la fête de la Pâque, verset 1, « Sachant que l'heure était venue pour lui de passer au monde, de ce monde au Père. » Verset 3, « Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu. » Verset 11, « Il connaissait en effet celui qui le livrerait. » Verset 18 et 19, « Ce n'est pas de vous tous que je le dis, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Verset 21, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Etc., etc. On voit dans ce texte combien ces versets nous montrent à quel point Jésus est en maîtrise de ce qui arrive et de ce qu'il va lui arriver. Il n'a pas perdu le contrôle des choses, il sait. Il a choisi de donner sa vie et il sait très bien quelles vont être les conséquences de la trahison de Judas pour lui. Tout a été remis entre ses mains et Jésus accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Personne ne va ôter sa vie, c'est lui qui va la donner. C'est lui qui va la donner. Du commencement à la fin, Dieu est en contrôle. Il est le maître de l'histoire. Et cela doit nous donner des assurances pour plusieurs raisons. Jésus, d'abord, il est capable de compatir à nos faiblesses, à nos souffrances, aux épreuves que nous endurons. Car il a lui-même fait face à toutes ces choses. Il n'est pas indifférent, au contraire. Il a été trahi par ses plus proches. Il ne se place pas en donnant de leçons, bien qu'il avait toutes les raisons de le faire, non, avec humilité, il s'est abaissé au plus profond pour pouvoir nous relever, nous délivrer du pouvoir des ténèbres et nous transporter dans son royaume pour que nous puissions avoir en lui la rédemption, le pardon des péchés, nous dit 1 Colossiens verset 1, verset 13. Il sait. Il savait que Judas le trahirait. Il savait que Pierre le renierait. Il savait toutes choses et malgré ça, il leur a lavé les pieds. Il a manifesté son amour. Jésus n'a jamais perdu le contrôle de la situation. Il en est de même aujourd'hui. Même quand on ne comprend pas, toutes les circonstances de nos vies, Jésus demeure en contrôle. Il était avant le commencement du monde. Et j'avais envie de dire, si tu traverses actuellement une épreuve, ça a été dit ce matin, pendant ce temps de louange. Jésus le sait, et Jésus est présent. Il veut te rappeler qu'il est présent avec toi. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi tu traverses cette épreuve, mais je sais que Jésus est présent, parce qu'il le dit. Et à travers de ce que tu traverses, il veut te montrer qu'il est là. Il est là, capable de compatir à tes souffrances. Il est là. Jésus a enduré la trahison, la douleur, la calomnie, la mort pour nous donner la vie, la vraie. une vie avec lui qui commence dès aujourd'hui et qui durera jusque dans l'éternité. Par son sacrifice, il nous a donné un contenu à espérer, des jours meilleurs. Des jours meilleurs qui viennent parce que nous connaissons Jésus. On va s'arrêter quelques instants si tu veux passer la slide juste après. Ouais. Je pense que c'est intéressant de s'arrêter quelques instants sur la réaction de Pierre, qui ne supporte pas de voir son maître s'abaisser devant lui. Il lui dit « Toi, Seigneur, tu laverais mes pieds ?» Ça résume assez bien le caractère scandaleux du geste de Jésus de l'époque. Pierre, il n'était pas préparé à ce renversement de situation qu'il trouve choquant. Peut-être qu'en tant que disciple, il aurait pu envisager de laver les pieds de Jésus, mais l'inverse, c'était impensable. Alors il essaye de raisonner Jésus. Toi, Seigneur, toi ? Mais Seigneur, ce n'est pas ta place, c'est trop humiliant pour toi. Ses repères, ils sont brouillés. Pour Pierre, la place du Messie est aux côtés des puissants, des personnes qui se font servir et non l'inverse. Avait-il honte d'avoir un maître qui s'abaisse à ce point ? Ça me refait penser à la question du début. Seriez-vous fier d'être connu comme étant un disciple de Jésus ? Un tel renversement de rôle est vraiment impensable à l'époque, tant il bouscule profondément l'ordre hiérarchique du monde. Et je pense que c'est le cas, ça serait le cas encore aujourd'hui. Alors Jésus lui répond, et il l'invite à patienter. « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre, fidèle à lui-même, avec son caractère, il campe sur ses positions et répond « Non, jamais, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et il commet là une première erreur, celle de croire que les vrais disciples de Jésus n'ont pas besoin que Jésus leur lave les pieds. Et la réponse de Jésus, elle est celle-ci. « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. En d'autres termes, tu n'es pas mon disciple. Tu n'as aucune part avec moi. Tu n'es pas chrétien. Alors, Pierre réagit. Et il dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et là, il commet une deuxième erreur, celle de croire maintenant que les vrais disciples de Jésus doivent à nouveau être lavés entièrement, totalement. Et la réponse de Jésus vient, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs. Il dit à ses disciples, mais non pas tous. Pierre, tu te trompes encore. Tu es déjà entièrement lavé. Et on peut y voir un parallèle avec les eaux du baptême qui symbolisent la purification définitive des péchés au travers de la mort de Jésus. Alors c'est quand même étrange, je trouve. Et on va essayer de clarifier, si vous le voulez bien, en relevant plusieurs enseignements de Jésus ici, dans ces quelques phrases. Tout d'abord, il nous dit « Les vrais disciples de Jésus sont entièrement purs. » Les vrais disciples de Jésus sont entièrement purs. En d'autres termes, devant Dieu, ils sont purs, ils sont acceptés, ils sont justifiés. Paul dira, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Romains 3, verset 24. Quand on accepte Jésus dans nos vies et que nous nous repentons de nos péchés, notre péché passé, actuel et futur est pardonné une fois pour toutes. Notre péché passé, présent, futur est pardonné une fois pour toutes. C'est en ce sens que Jésus dit « Il est entièrement pur ». Les disciples qui ont suivi Jésus et se sont identifiés à lui, qui ont accueilli son enseignement, ont déjà reçu par la foi cette purification. Ensuite, il y a du péché dans la vie d'un vrai disciple. Mais cela ne contredit pas le fait qu'il est entièrement pur. C'est un paradoxe. Hein ? Il y en a plusieurs dans la Bible. Il y a du péché dans la vie d'un vrai disciple. Pierre, pas longtemps, quelques jours après, va mentir, va dire ne pas avoir connu Jésus, va le renier. Mais cela ne contredit pas le fait qu'il est entièrement pur. Ce péché, il doit être traité. Jésus doit s'en occuper. Jésus doit laver les pieds. Il doit laver nos pieds. Sinon, on montre que nous n'avons aucune part avec Jésus. 1 Corinthiens 5, verset 7 nous dit « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. En d'autres termes, appliquez ce que vous êtes en Jésus dans vos vies de façon concrète. Travaillez à être en pratique ce que vous êtes en Jésus. Romains 8, versets 1 et versets 12 à 14 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. » Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui conduits par l'esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Justifiés, nous sommes encouragés à combattre le péché dans nos vies. Et c'est un vrai combat qu'il nous faut mener. Chacun. Nous devons chercher à traiter les impuretés de nos vies parce que nous sommes purs. Complètement purs. Et ça, c'est une marque des vrais disciples de Jésus. Ceux qui ont une part avec lui. Ceux qui sont en communion avec lui. Pas comme Judas. Judas n'avait pas compris. Judas a demeuré dans son péché. La marque des vrais disciples, c'est qu'ils travaillent à leur sanctification. Et il y a vraiment, de tout temps, mais particulièrement aujourd'hui, je trouve qu'il y a une urgence à réaliser qu'il y a un vrai combat dans nos vies à mener chacun face au péché. Le monde ne va pas aller de mieux en mieux. L'esprit du monde est à contre-courant, à 100%, 200% de tout cela. On entend aujourd'hui beaucoup de témoignages, malheureusement, d'hommes et de femmes, de chrétiens engagés, qui tombent de haut. On a besoin de revenir à Jésus régulièrement pour confesser et demander pardon pour nos fautes, pour que nous puissions vivre dans la vraie liberté, pour que nous puissions courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Hébreux 12 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Il dit un peu plus loin, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Jusqu'au sang, c'est fort. Jésus a lavé les pieds de sale de ses disciples et je crois que ce matin, il veut également nous laver les pieds, nous purifier, nous restaurer. Et on le verra plus tard dans le texte, il nous invite, il nous invite aussi à faire de même entre frères et sœurs, à avoir une attitude de pardon les uns envers les autres. Et c'est une preuve concrète d'amour. Et Jésus nous en a montré l'exemple. Au verset 7, il dit Jésus à Pierre, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Et on peut y voir une allusion au reniement de Pierre et à son rétablissement. Et ça coûte de pardonner. Ça demande de l'humilité, ça demande de l'amour, ça demande de voir la personne au-delà du tort qu'elle nous a fait. Et Jésus, il voyait le cœur de Pierre, il voyait au-delà du fait qu'il allait le renier. Jésus aimait Pierre d'un amour vrai. C'est cet amour que Jésus nous appelle à vivre les uns avec les autres. Ne restons pas focalisés sur les blessures que nous a fait subir telle ou telle personne, mais voyons au-delà et pardonnons en suivant le modèle de Jésus. Et si on n'en trouve pas la force, si on n'en trouve pas la moyen, approchons-nous de Jésus. Demandons-lui son aide, car il est celui qui pardonne parfaitement. Il est celui qui a tout pardonné. Il est celui qui a porté le poids de nos fautes, le poids de notre péché. Les vrais disciples de Jésus, ceux qui ont une part en lui, qui sont en communion avec lui, ne persistent pas dans leur péché, mais ils travaillent à leur sanctification. Ils viennent à Jésus et ils le laissent agir. Jésus opère aussi un changement radical de valeur. Il n'a d'ailleurs jamais caché sa pensée, il en a parlé plusieurs fois tout au long du chemin quand il était avec ses disciples. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Il a dit aussi, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui gouverne comme celui qui sert. Les disciples, ils ont tous entendu ces paroles sans vraiment les comprendre. Et là, quand ils voient Jésus à leurs pieds, avec la bassine d'eau en train de leur laver les pieds, ils ne comprennent toujours pas. Et Jésus leur pose la question, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Et la question, elle vous est posée ce matin, elle nous est posée, « Comprenez-vous ce que j'ai fait ?» Vous m'appelez maître, vous m'appelez seigneur, et vous dites bien. Vous élevez mon nom par des chants, des cris, des danses, des bannières, vous tapez des mains, vous me glorifiez, et vous faites bien. Car je suis le Seigneur, je suis le roi, je suis. Mais je ne suis pas comme les rois de ce monde, je ne suis pas le maître au sens terrestre du terme, mais vraiment au sens céleste du terme. Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, si donc je suis venu vous servir, moi le Seigneur et le Maître, celui que vous adorez, vous aussi, si vous êtes à moi, si vous êtes de moi, si vous m'avez donné votre vie, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Vous devez vous servir les uns les autres. Vous devez venir les uns vers les autres avec humilité, en manifestant l'amour de façon concrète, pas juste un sentiment, mais de façon concrète, par des actes. Vous devez vous pardonner les uns les autres. Vous devez manifester l'amour comme je l'ai manifesté, sans condition, sans condition, sans intérêt, même envers vos ennemis et ou ceux qui vous persécutent. Je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme je vous ai fait. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous n'êtes pas plus grand que votre frère, que votre sœur, vous n'êtes pas plus grand que moi, dit Jésus. Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai manifesté mon amour de manière inconditionnelle, ben vous devez aussi faire de même. Les disciples, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils se disputaient pour savoir qui était le plus grand. L'orgueil les empêchait d'être empreints d'humilité. Pierre se voyait l'aîné, Jean se voyait le plus proche du Seigneur. Mais Jésus a dit, en prenant un petit enfant, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand parmi vous. Dans le royaume des cieux, pardon. En lisant ce texte, j'ai pensé à Jonathan et Judith Le Toc. Je ne sais pas si vous les connaissez. Jonathan fait partie de l'équipe apostolique qui supervise notre famille d'église Newground en France. Et il est aussi ministre des Affaires étrangères à l'île de Guernesey, après en avoir été le Premier ministre pendant 2 ans. Donc j'aurais tendance à dire pas n'importe qui quand même. Ils étaient à un festival l'année dernière et j'ai été surpris de les voir avec son épouse, tablier autour de la taille, en train de servir au self 200 personnes qui venaient y manger. Ça m'a touché. Ça m'a touché de voir l'humilité et la joie qu'ils avaient de servir leurs frères et sœurs. Alors beaucoup servent à festival, de la même manière, et dans l'église aussi. Mais j'ai pris cet exemple de par le contraste qu'il représente. Un premier ministre et son épouse ont servi la purée et le poulet. C'est à l'opposé de la pensée du monde. C'est à l'opposé. J'en profite pour faire une petite parenthèse. On a besoin de bénévoles à festival. Vous allez avoir l'occasion de mettre en pratique le fait de servir vos frères et sœurs. Et il y a une promesse qui est attachée à cela. Jésus nous dit, si vous savez cela, si vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Il précise que le sentiment d'amour seul ne suffit pas, il faut le démonter en pratique et avec joie. Il ne s'agit pas de servir à contre-cœur, les pieds reculons, oh, je n'ai pas envie ce matin. Non, ce n'est pas ça que Jésus attend. Il attend un cœur bien disposé, un cœur humble. Jésus nous demande de faire comme il fait, comme il a fait, de manifester l'amour en étant serviteurs les uns des autres. Il donne d'ailleurs un commandement nouveau, on l'a lu, quelques versets plus loin. Il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça commence ici. Nous dit Jésus. Le commandement, il est nouveau parce qu'il y a l'exemple qui est donné. Jésus s'abaisse et lave les pieds de ses disciples. Puis plus tard, il va donner sa vie de façon ultime à la croix. Et il est aussi nouveau à cause du cadre dans lequel il s'exerce, dans lequel il s'exprime. Et ici, c'est la communauté des disciples. C'est la communauté des croyants. Ça commence ici, entre nous, entre les disciples de Jésus. Ce n'est pas exclusivement réservé aux disciples de Jésus, surtout pas. Mais ça commence ici. Et c'est une marque, c'est une autre marque, un autre trait des disciples de Jésus. Ils manifestent l'amour les uns envers les autres de façon concrète, comme Christ a montré l'exemple. Alors cela peut se faire de travers de mille façons. Un encouragement, une visite, en allant aider spontanément un frère, une sœur, en allant demander pardon, en pardonnant. Et la liste, on pourrait l'allonger. Et c'est une marque, nous dit les Écritures, que le monde voit. C'est une marque pour le monde que nous sommes de Christ et que nous sommes ses disciples. C'est visible, car cet amour contraste avec celui du monde qui est principalement centré sur soi. Il contraste vraiment, on ne s'en rend pas compte, mais il contraste. Donc en conclusion, j'aimerais vous poser cette question du début. Seriez-vous fier d'être connu comme étant un disciple de Jésus? Si la réponse est oui, travaillez à votre sanctification, laissez Jésus s'occuper de votre péché. J'ai beaucoup aimé l'image que tu as donnée, Marie, ce matin. L'image d'une personne qui est debout, avec les pieds dans un bloc de béton. Et le Seigneur lui dit, tu peux avancer, tout en sachant qu'il ne peut pas parce qu'il a ses pieds dans ce bloc de béton. Il suffit de s'abaisser, se mettre à genoux. Une attitude d'humilité face au Seigneur, face au Maître. Et je pense qu'il est aussi question de repentance. Tu peux t'allonger et en faisant cela, tu vas pouvoir faire un pas immense, un pas qui est grand. Et le bloc de béton, il va être disloqué. Parce que Jésus est celui qui pardonne, celui qui relève, qui te relève de ta faute. C'est celui qui a porté les conséquences de nos fautes. Acceptons qu'il nous lave les pieds. Aimez vos frères et sœurs comme Jésus vous a aimés avec un amour extrême, un amour sacrificiel qui se manifeste de façon concrète. Soutenons-nous les uns les autres, pardonnons-nous les uns les autres, soyons vrais les uns avec les autres. Avançons ensemble avec assurance dans la course que Jésus nous propose en ayant l'assurance qu'il est le maître de l'histoire, qu'il est en contrôle de toutes choses, qu'il est toujours avec nous, capable de compatir à nos faiblesses. Et en ayant les yeux fixés sur Jésus, notre espérance éternelle, notre joie ne faillira jamais. Amen. Amen.
Merci Pierre.